Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ? Aujourd'hui, je vais encore vous parler de cyberpunk, d'intelligence artificielle et d'un monde peuplé de gens avec un disque dans le dos. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tron. Le film, sorti en 1982, est une idée de son réalisateur, Steven Lisberger. L'histoire ? Nous sommes en 1982 et faisons la connaissance de Kevin Flynn. Kevin est un programmateur de jeux vidéo. Il est doué, mais surtout licencié. Le patron de la société Encom, Ed Dillinger, a pris ombrage du talent de Kevin et, après lui avoir volé la paternité de ses jeux vidéo, l'a gentiment remercié. Euphémisme que l'on utilise pour ne pas dire viré. Kevin va donc ouvrir une salle d'arcade. Alors, pour les plus jeunes des auditeurs, une salle d'arcade est un lieu où l'on trouvait une multitude de bornes de jeu. Une borne de jeu est un meuble avec un écran et quelques boutons pour jouer, debout dans la majorité des cas, à un seul jeu. Et le challenge consistait à obtenir le score le plus élevé et à pouvoir l'inscrire sur l'affichage de la dite borne. Mais pourquoi regrouper ces bornes dans ces lieux ? Croyez-moi ou pas, dans les années 80, Internet n'existait pas, et les gens avaient besoin de se rencontrer physiquement, les jeunes plus particulièrement dans ce genre d'endroit. De plus, les premières consoles coûtaient une fortune et le mode multijoueur n'existait quasiment pas. Bref, c'était les derniers endroits à la mode. Mais Kevin, malgré le succès de sa salle d'arcade, est frustré. Frustré de s'être fait voler ses créations, de s'être fait virer. C'est pourquoi il conçoit un programme, Clou. Enfin, Clou, C-L-U en anglais. C'est pas la petite pointe en métal sur laquelle on tape, hein, qu'on se comprenne bien. Pour trouver, au sein d'Encom, les preuves des malversations de Dillinger. Mais le système informatique d'Encom est bien protégé par le MCP, Maître Contrôle Principal. Et celui-ci va rapidement tailler Clou en pièces. Kevin va donc devoir se rendre physiquement chez Encom. Plus facile à dire qu'à faire. Il va être aidé en cela par deux employés qui lui sont restés fidèles. Et c'est donc nuitamment que Kevin va s'introduire dans le bâtiment et commencer ses recherches. Mais rapidement, le MCP se rend compte de la présence de Kevin et va tout faire pour le contrecarrer.
Vous n'auriez pas dû revenir, Flynn.
C'est le fameux maître contrôle principal dont tout le monde parle.
Restez bien assis. Mettez-vous à l'aise. Je vous en prie. Savez-vous que vous allez trop loin ?
Comment dirigerez-vous l'univers si vous ne pouvez même pas répondre à quelques questions insolubles ? Hein ? Allez, mon petit, fais voir ce que t'as dans le ventre.
J'aimerais me mesurer à vous pour juger le...
Y compris le téléporter dans le système informatique, plus précisément dans les programmes de jeu.
Je serai forcé de vous envoyer au jeu.
Au jeu vidéo ? Vous voulez faire jojo ?
Mais comment me direz-vous ? Ah oui, comment ? Il se trouve que chez Encom, on travaille aussi sur la téléportation grâce à un canon électronique. La téléportation, bien que purement spéculative de nos jours, est déjà très bien théorisée. Son principe est de dématérialiser un objet, ou un corps, pour transférer son information, entre guillemets, et le rematérialiser. Tout ceci étant bien entendu totalement hypothétique. Comment dématérialiser un corps sans y mettre fin, et comment le rematérialiser dans le bon ordre. Bref, toujours est-il que Kevin se retrouve dans les geôles du MCP. Ce dernier est non seulement sadique, mais également philosophe. Kevin a pour ainsi dire vécu pour le jeu vidéo, eh bien, il mourra par le jeu vidéo. En attendant son funeste destin, Kevin fait la connaissance de Chrome et de Tron. Eux, ce sont des programmes qui déplaisent aux MCP qui vont devoir lutter pour survivre. Le premier jeu auquel il est confronté est un mélange de casse-brique, de pelote-basque et de squash. Il est opposé à un adversaire qui lui envoie une balle qui, si elle touche le sol, fait disparaître une partie de ce sol. Kevin, après un début difficile, gagne. Et pour cause, il a conçu ce jeu. Le MCP l'envoie alors sur un autre jeu bien plus dynamique et violent. Les motocycles lumineux. Un jeu de course de moto, mais pourquoi lumineux, me direz-vous ? Je vous répondrai que c'était une bonne question, et que j'y viens. Quand elle se déplace, les motocycles laissent derrière elle un ruban. Lumineux, c'est bien, vous suivez. Sauf que cette traînée, ce n'est pas comme les avions dans le ciel. Ce n'est pas simplement de la condensation. C'est un ruban bien solide, qui plus est vertical. On est très proche de ce qu'on appelle un mur, sur lequel vont s'écraser les pilotes dont les réflexes ne sont pas assez aiguisés. Et croyez-moi, il en faut des réflexes. Surtout au vu de la trajectoire des motos, les virages sont pris à angle droit. Dans cette course, le héros est accompagné de Chrome et de Tron. Ils parviennent à gagner contre l'autre équipe, et en plus, ils parviennent à fuir. Ils ont en tête de trouver le lieu où se trouve le MCP pour le réduire au silence. La tâche s'avère rude et même mortelle pour Chrome. Aidé par deux autres programmes, Yori et Dumont, il va tenter d'implanter un virus tel un cheval de Troie pour détruire le MCP. Ce qui sera fait au prix du sacrifice de Tron. Revenu dans notre réalité, Kevin obtient enfin la preuve de sa paternité des jeux vidéo qu'il a créés. Il démet Dillinger de ses fonctions pour prendre sa place. Sorti en 1982, la même année que Blade Runner, il ne marquera pas l'esprit des fans de SF autant que le film de Ridley Scott. Certes, ces deux films auront une première carrière faiblarde, mais Blade Runner va acquérir au fil des ans un statut quasi iconique. Tron, pour sa part, va rester plus confidentiel. Pourquoi ? Son aspect visuel, tout d'abord. Il est, semble-t-il, le premier long métrage à opter pour les effets spéciaux numériques, non seulement pour les personnages, mais pour les décors. Il s'agit ni plus ni moins qu'un monde virtuel au propre comme au figuré. Les décors extérieurs, entre guillemets, dans le monde informatique, sont intégralement conçus par ordinateur. Il y a 40 ans de ça. Certains décors ont une allure psychédélique. La technique est simple et connue. Vous faites un décor noir, entièrement noir. Vous y appliquez dans des endroits bien précis de la peinture fluorescente, rouge, vert, bleu, que sais-je. Et vous éclairez tout ça à la lumière noire. Le résultat plutôt déroutant est typique des boîtes de nuit. De mon époque, hein. Je ne sais plus à quoi ça peut ressembler aujourd'hui. Émission de boomer aujourd'hui. Le traitement visuel des personnages est lui aussi particulier. Dans le monde virtuel, les avatars sont filmés en noir et blanc. Leur combinaison également, à l'exception de rubans lumineux qui changent de couleur selon leur état. Ce qui donne un aspect à la fois ancien et moderne des personnages. A noter que le concept d'avatar n'est pas forcément concret en 1982. Mais le film sera précurseur dans ce domaine. Kevin Flynn a un avatar qui lui est identique une fois intégré dans le système informatique. Un peu à l'image de Matrix. Même chose pour Tron et Yori, qui sont des programmes conçus par les amis de Kevin. Vous savez, ceux qui l'ont aidé à entrer dans Incom. Ils sont à l'image de leur créateur. Bon, la technique à l'époque étant balbutiante, les effets spéciaux ne sont pas fluides et desservent un peu la mécanique des mouvements des personnages. Ça, c'est l'aspect esthétique du film, ça compte. Mais ça n'explique pas complètement le faible intérêt du public. C'est peut-être le milieu dans lequel se déroule l'action qui n'a pas parlé au public. En 1982, la culture du jeu vidéo, en particulier en France, n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et les salles d'arcade ne concernent que les grandes villes. L'idée des mondes virtuels est un concept encore flou pour le grand public, et les parents ne sont pas forcément enclins à aller voir un film aussi abstrait avec leurs enfants. Et les progrès dans le domaine des effets spéciaux numériques sont tels qu'il va vite être considéré comme dépassé. De plus, les mondes virtuels ne vont vraiment impacter le grand public qu'à la fin des années 90. Tout ça fait que Tron n'accédera pas au niveau d'œuvre fondatrice du mouvement cyberpunk. Pourtant, elle coche plusieurs critères. Technologie de l'information, un univers certes virtuel mais sous un régime autoritaire. Le propos reste tout de même globalement positif. Production Disney oblige. Et c'est peut-être ce supplément d'âme dystopique qui va lui manquer pour accéder au panthéon du cyberpunk. Et qui ne lui permettra pas de trouver de successeur. En tout cas jusqu'en 2010. Tron Legacy, ou Héritage en français, est réalisé par Joseph Kosinski. Au début du film, on retrouve Kevin Flynn qui explique à son fils à quoi ressemble ce mystérieux univers, la grille. Nous sommes en 1989 et Kevin est un patron reconnu et adulé. On s'approche de ce qu'a été l'idolâtrie autour de Steve Jobs. Mais un jour il disparaît et le mystère demeure au fil des ans, alimentant ainsi les théories les plus folles. Nous voilà en 2010, la société Encom a survécu à la disparition de Kevin, mais a pris un chemin, comment dire, pour le moins capitaliste. Ce qui déplaît à certaines personnes, entre autres Alan Bradley, ami fidèle de Kevin, qui a tenu l'entreprise à bout de bras après la disparition de ce dernier. Alan qui avait conçu le programme Tron. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas d'un bon œil la direction que prend Encom. Et qui tous les ans se font une petite blague, un pied de nez à ses dirigeants. Cette année, il va distribuer gratuitement le système d'exploitation qui devait être vendu à vil prix. Cette personne n'est autre que le fils de Kevin, Sam. Celui-ci vit en marge de la société, confortablement, rassurez-vous, et semble toujours hanté par l'absence inexplicable de son père. De retour de son escapade, il reçoit la visite d'Alan Bradley, qui en plus de le féliciter pour son action annuelle, lui annonce que Kevin lui a envoyé un message via son pager. Alors, un pager est un petit appareil qui existait avant les téléphones portables et qui pouvait recevoir des messages courts. Je me sens vieux aujourd'hui. Toujours est-il que le message en question aurait comme origine la salle d'arcade de Kevin, fermée depuis bien longtemps. Sam s'y rend et, par hasard, trouve un accès secret à un labo informatique. Et tout comme son père dans le premier Tron, il se retrouve plongé dans un monde virtuel. Et comme dans le premier film, l'accueil est toujours aussi rude. Sam se fait capturer par un engin volant et dirigé vers un centre de tri où est décidé le sort des personnes raflées. Ses compagnons d'infortune, des programmes pirates, sont désintégrés. Sam, lui, est envoyé au jeu. Tiens, il se retrouve dans une arène où il va devoir affronter d'autres joueurs à un jeu qui s'apparente à un mélange de casse-briques, de pelote basque et de squash. Tiens, mais le fils est visiblement moins doué que le père et il se retrouve rapidement en mauvaise posture face à son adversaire. Ce dernier, se rendant compte que Sam n'est pas un programme mais un concepteur, l'épargne et va le mener à son chef. Petite parenthèse. Dans le monde virtuel de Tron, il semble exister une sorte de religion alimentée par les programmes. Ils se sentent redevables de leur existence envers ces êtres au statut divin qui leur auraient donné vie. Toujours est-il que Sam est présenté au chef. Chef qui va se révéler être le père de Sam. Du moins en apparence. En réalité, c'est Clou, l'alter ego informatique de Kevin. Et apparemment, un truc ne s'est pas passé comme prévu. Clou, après lui avoir dit qu'il était coincé dans ce monde, l'expédie dans l'arène participer à une course de moto lumineuse. Tiens. Autant le squash, c'est pas la tasse de thé de Sam, autant la moto, ça lui parle. Et il se débrouille plutôt bien. Mais Clou, lui aussi, est doué sur une moto. Et avant de se faire trucider par ce dernier, Sam est sauvé par un élément extérieur au jeu. Celui-ci, ou plutôt celle-ci, Cora, le conduit vers son véritable père. Kevin, qui vit reclus dans une demeure au beau milieu de terres hostiles. Mais à sa grande surprise, Sam va retrouver un père stoïque, voire distant. Ce genre d'accueil après 20 ans de séparation a de quoi laisser perplexe. Il y a toutefois une bonne raison. Clou est le double numérique de Kevin. Ils sont par essence liés très profondément. L'un étant le clone de l'autre, les choix ou actions de Kevin influent forcément sur Clou. Clou se nourrit même de la force de Kevin. Ce qui l'oblige à une conduite tout en retenue. Pragmatique, mais terriblement frustrant. Kevin explique à son fils comment la situation en arrivait à ce point. Il a créé Clou pour l'aider à fonder un système parfait avec l'aide de Tron, qui a finalement survécu à la fin du premier film. Or, on le sait bien, la perfection n'existe pas. On peut y tendre, on peut la frôler, mais jamais on ne l'atteint. Jamais. La notion même de perfection est totalement subjective. Une création, une chanson, une peinture peuvent paraître parfaites, mais cela dépend du point de vue de la personne qui regarde. Rien n'est parfait. Un exemple, la Joconde. Nombreux sont ceux qui qualifient ce tableau de parfait. Mais sur quels critères? Pour ma part, je le trouve bien, mais sans plus. Sympa à la rigueur. Mais à partir de quels critères on le qualifie de parfait? La qualité d'exécution? Ok. Et c'est tout? Une œuvre d'art a pour but de provoquer une émotion, sentiment humain, c'est le moins qu'on puisse dire. La perfection est dans l'œil de celle ou celui qui regarde, ce n'est pas quantifiable. Alors demander à un programme, même s'il est le reflet de son concepteur, de réaliser un objectif aussi flou que la perfection d'un système informatique, est une démarche vaine, vu que lui-même ne saurait identifier la perfection, ou alors une sorte de perfection pour lui-même, ce qui conduit Clou à ériger une tyrannie et à provoquer un génocide. Même Tron, qui était le garant de la protection du système, sera converti à la pensée de Clou. Kevin se voit donc bloqué par le mimétisme de Clou et par sa culpabilité d'avoir créé un monstre. Sam ne peut se résoudre à l'inaction de son père et va donc retourner dans la cité pour trouver un moyen de revenir dans le « vrai monde » entre guillemets. Cora va l'accompagner dans sa recherche et le présente au tenancier d'une boîte de nuit. Tout est relatif, il fait toujours nuit dans ce monde virtuel. À noter l'apparition à la place des DJ du groupe Daft Punk, qui est à la manœuvre pour la bande originale du film. Boîte de nuit qui se révélera être un piège, où va débarquer Clou, mais aussi Kevin, qui s'est résolu à agir pour sauver son fils. Kevin, Sam et Cora vont pouvoir fuir vers la source du signal, vers le vrai monde, sauvés in extremis par un Tron qui reviendra à de meilleurs sentiments. Kevin, au cours d'un affrontement final avec Clou, permettra à Sam et Cora de s'enfuir vers le vrai monde. Visuellement, le film de 2010 sera moins novateur que celui de 1982, mais les progrès de la technique en font un film réussi graphiquement. Cela est rendu possible par la technologie OLED, pour Organic LED. Pour faire simple, ce sont des LED sous forme de panneaux souples qui peuvent être intégrés à des vêtements. De plus, elles ont une lumière diffuse, ce qui donne un rendu onctueux. On est au milieu des peintures fluorescentes et de la lumière noire du premier Tron. Au niveau des décors, un monde sépare les deux films. Les progrès en matière informatique sont quasiment exponentiels, et presque 30 ans séparent les deux films. Les décors de l'antre de Kevin font furieusement penser à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ce mobilier qui mélange à la fois le classique et des couleurs tranchées entre le noir profond et le blanc éclatant. Les motocycles lumineux ont elles aussi eu droit à un lifting. Le pilote n'est plus engoncé dans un cockpit, il enjambe la machine et fait presque communion avec elle. Et le ruban qu'elle laisse derrière elle gagne en souplesse, presque comme un élément liquide. Mais toujours aussi infranchissable. À l'image du premier Tron, Tron Legacy ne va pas soulever l'enthousiasme des foules. Pourquoi ? Faire une suite à un film qui n'a pas vraiment marqué le grand public à l'époque est peut-être un élément de la réponse. Alors oui, le film a parfois des passages contemplatifs, où on prend plaisir à voir de la belle image sans que l'histoire gagne vraiment. Critique que l'on fera également au film suivant de Joseph Kosinski, Oblivion, avec Tom Cruise. Film d'une beauté incroyable mais qui aura un succès tout relatif. Il faut dire que Kosinski est surtout un réalisateur tourné vers la belle image. Au détriment du scénario, à voir. Petit aparté, la technique du remplacement numérique du visage d'un acteur, aussi appelé deepfake, en est à ses balbutiements en 2010. Et ça se voit. Le Kevin John et Clou ont droit à ce traitement et ça donne un résultat pas vraiment naturel. D'autant plus qu'on sait que ce n'est pas le vrai visage. C'est ce que j'appelle l'effet Rogue One. Dans ce film de l'univers Star Wars, le deepfake est utilisé deux fois. Attention, je vais divulguer. Il s'agit de deux personnages dont l'actrice et l'acteur sont décédés. Il y a le Moff Tarkin, au sujet duquel je n'avais pas fait le rapprochement, il est décédé en 1994. Ce deepfake est pour moi passé comme une lettre à la poste. Le second est plus problématique. Il s'agit de la princesse Leia. Carrie Fisher, son interprète, nous a quittés en 2016. C'est relativement récent. Et ça, on l'a en tête quand on la voit dans le film. Ce qui, évidemment, va nous influencer dans la perception de la technique. Les films Tron parlent d'un même sujet avec près de 30 ans d'écart. Sujet qui a tellement évolué au niveau technique qu'on se demande s'ils peuvent avoir un lien de parenté. Eh bien oui. Car dès qu'on a commencé à parler de machines intelligentes, on a parlé de leur anima, de leur âme, si tant est qu'on puisse leur en affubler une. L'intelligence artificielle est présente dans la SF depuis qu'on commence à évoquer les créatures mécaniques. Les robots en font le réceptacle le plus parlant, le plus concret. Pour qu'ils puissent interagir avec les personnages biologiques ou même les autres robots, ils ont été pourvus d'une intelligence. C'est quand même plus sympa d'avoir affaire à un protagonisme intelligent, entre guillemets, qui a de la conversation. Même si le fait de le faire parler est parfois plus un recours scénaristique. Dans Tron, l'IA n'est pas concrète dans le monde réel. Dans le premier, elle se manifeste dans le vrai monde par des lignes qui apparaissent sur un écran. Dans le 2, on l'évoque à demi-mot. Après, dans le monde virtuel, elle prend forcément une consistance. C'est logique. Il faut un réceptacle pour la rendre concrète et le monde virtuel étant une projection, elle peut prendre la forme qu'elle veut. Un totem rotatif rouge dans Tron, un clone de Kevin Flynn jeune dans Tron Legacy. L'IA est encore quelque chose d'abstrait. On en parle de plus en plus, mais ça reste difficile à concrétiser. Le grand public ne sait pas à quoi on a affaire. On a l'idée d'un programme informatique un peu costaud qui vit sa vie dans les tréfonds d'un superordinateur. Un peu comme une bête tapie dans l'ombre, prête à bondir et à vous sauter à la gorge. Le monde des IA est tellement vaste et diversifié. C'est pourquoi je vous propose de faire un tour d'horizon du sujet le mois prochain, histoire de vous montrer ce à quoi on pourrait avoir affaire. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».